Bienvenue au podcast d'El Shaddai. Vous allez écouter une parole qui va vous édifier et qui vous permettra d'avancer afin d'être bien établi dans votre vie chrétienne. Excellente écoute.
C'est un message d'encouragement, un message d'espoir. L'espoir que les choses peuvent changer malgré souvent les longs délais qui usent un peu notre espoir, qui génèrent un peu de désespoir. Et Dieu veut changer quelque chose, mais il ne change pas quelque chose sans notre consentement, sans notre participation aussi. Et on va jeter un regard dans un épisode des Évangiles où une rencontre entre Jésus et un homme dont la vie était mal en point, la condition était mal en point, désespérante d'ailleurs, et comment les choses se sont dénouées et comment cet homme a réussi à avoir une réponse favorable à ce qu'il désirait ardemment au plus profond de lui. Et le texte va apparaître à l'écran. On peut mettre déjà les prochaines diapos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en haut, là. Parce que j'ai pas la télécommande ici en bas. Ça prend quelqu'un qui va s'occuper de la... Ah non, je ne chanterai pas, je vous assure, c'est mieux que je ne chante pas, c'est mieux pour vous. La télécommande, je l'ai, mais j'avais demandé à quelqu'un de s'en occuper en haut. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper des diapos, c'est bon? Oui? OK. À la prochaine, le texte biblique. Comme je mentionnais vendredi soir, c'est le genre de problème que n'avait pas l'apôtre Paul. Tant qu'à choisir un problème, j'ai mieux celui-ci que les siens. Je vous l'accorde. Est-ce que ça fonctionne en haut? C'est quoi le souci? Ça bug? Bon, petit bug. Bon, si vous voulez, le temps qu'il... L'apôtre Paul n'avait pas de PowerPoint, vous êtes d'accord avec moi? C'est là? OK, voilà. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. La suite. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé? » Notre version va dire « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine et quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme, dis-je, retrouva la santé. Il prit son lit et marcha. » La situation décrite dans ce texte, en fait, la scène prend place à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. Notez bien que Bethesda veut dire « maison de miséricorde », et c'est justement ce qui va prendre place dans cet événement. À l'origine, l'endroit était fréquenté par les hautes classes de la société. C'est un endroit prisé, c'est un endroit où les gens se rassemblaient. Mais avec les années, l'endroit s'était détérioré au point qu'il avait perdu son prestige, avait perdu tout, et l'eau était devenue stagnante. Et en fait, ce qui se passe, pour prendre une explication très moderne, c'était un endroit où les gens squattaient, les gens les plus pauvres, les gens les plus démunis, les gens en souffrance, les gens malades, boiteux, aveugles, comme on a vu tout à l'heure. Et à cette époque, selon la croyance, il y avait un ange qui descendait à l'occasion et que l'eau, pour ajouter l'eau, et le malade qui descendait le premier serait celui qui était guéri. Un peu premier arrivé, premier guéri. Le problème, c'est que, évidemment, il n'y avait rien de prévisible dans tout cela. Mais ce que je vais vous amener à voir ce matin, c'est un peu, encore une fois, laisser aller votre imagination, à imaginer un peu la scène, à voir un peu la scène, et qui est en présence de cette scène-là. Premièrement, le texte mentionne qu'il y a des malades. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alors, vous pouvez imaginer la scène. Essayez encore une fois, de vous projeter ces malades, ces estropiés, les aveugles, tous ces gens dont la vie est mal en point, une espèce de monde en parallèle du reste de la société ou du reste de la communauté, une espèce de groupuscule qui se tient là et qu'ils attendent espérant que quelque chose se produise, mais les choses ne se produisent pas, du moins pas pour tous. Ça me fait penser un peu à ce que vivent une multitude de gens dans la vie moderne, des jeunes, des réfugiés, des jeunes qui squattent un peu partout dans les grandes villes aussi, comme s'ils recréaient littéralement une communauté. Vous savez, quelqu'un a dit que l'espoir, c'est espérer lorsque la situation est désespérée. Donc, l'espoir, c'est quelque chose qui veut transcender, dépasser l'état actuel. Donc, ces gens qui viennent là, ils sont quand même à l'attente de quelque chose, espérant que quelque chose se produise. Donc, non seulement il y a toute cette multitude de malades, mais il y a aussi un homme particulier qui ressort du décor dans l'histoire qui s'appelle le paralytique. En fait, on l'appelle le paralytique, mais vous allez voir dans quelques instants, il n'était pas si paralysé que ça. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Laissez-moi décrire un peu sa condition. Évidemment, il est malade. Je mentionnais que paralytique n'est pas le meilleur terme, parce que le terme grec qu'on trouve là, c'est asthénia, qui donne naissance à asthénie en français, qui n'est pas nécessairement une paralysie totale, comme on voit les paraplégiques ou les quadraplégiques. C'est quelqu'un dont le corps était profondément affaibli. C'est une faiblesse, parfois même de, c'est une faiblesse mentale. C'est quelqu'un qui quand même porte cette infirmité-là, qui fait qu'il ne peut pas se lever, il est immobilisé dans tout ça. Donc, c'est un homme qui est malade. Mais il est aussi un malade chronique. Le texte mentionne qu'il est là depuis 38 ans. Répétez après moi, 38 ans. C'est long, 38 ans, vous êtes d'accord avec moi? C'est assez suffisant pour générer énormément de désespoir. Le temps, les attentes déçues et les déceptions et tout cela qui prend place. Donc, il est malade chronique. Ça fait 38 ans qu'il vient là. C'est un habitué de l'endroit. Peut-être même est-il devenu un fardeau pour sa famille, dans ce sens qu'ils doivent à chaque jour l'amener là. Et dans ce sens, il est passif dépendant, c'est-à-dire qu'il attend toujours que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Il dépend des autres pour, justement, dans le contexte, pour sa guérison. Couché, passif, sans jamais rien faire depuis 38 ans. Répétez après moi. 38 ans à rien faire, assis, couché, passif dans sa vie. Et bien sûr, il est assurément découragé. Déprimé, comment dirais-je, abattu, triste, peut-être un peu amer à l'intérieur de lui. Vous imaginez que pendant 38 ans, couché, à attendre que l'eau bouge, puis à attendre que quelqu'un l'aide, à la longue, ça développe un certain ressentiment, dis-je. Pourquoi ça s'arrive aux autres, ça ne m'arrive pas à moi, c'est toujours la même chose, Dieu m'a oublié, Dieu ne pense pas à moi, qu'est-ce qui m'arrive, et tout ça. Donc, c'est ça qui nourrit un peu le découragement. Mais, à quelque part, il a la foi. Parce qu'il vient quand même à chaque jour à cet endroit-là. Donc, il vient à l'attente de quelque chose. Une certaine espérance, comme je mentionnais tout à l'heure. Mais vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive de vivre cela, parfois on a l'impression que notre foi devient fatiguée, un peu usée. Je crois, mais je ne vois pas les choses se passer. Mais je persévère, je sauvegarde ma relation avec Dieu, mais il reste quand même qu'il y a une espèce de zeu de la foi, là. Des fois, je dis au Seigneur, est-ce que je pourrais me reposer de croire un peu? Okay? Mais malheureusement, ce que la Bible dit, c'est le juste vivra par la foi. Donc, la foi, c'est notre souffle de vie. C'est ça qui nous permet de progresser, d'avancer, malgré des obstacles, malgré des écueils qui, parfois, se manifestent dans notre vie. Il est quand même dans un environnement particulier. Sous ces portiques, le texte mentionne, était couché une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Prochaine diapo. Il a passé 38 ans, donc, avec des êtres tout aussi amochés que lui. Ça, c'est le contexte. Quand je parle d'un environnement social, c'est que parfois, le milieu dans lequel on est ne nous aide pas à sortir de notre condition. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver chez le médecin, vous êtes dans la salle d'attente du médecin, OK, en attendant la consultation ou l'entretien avec le médecin. Et là, vous êtes entouré de gens qui sont malades. Et surtout chez les personnes âgées, on voit qu'il y a une espèce de rivalité entre les maladies. Une espèce de compétition. Qu'est-ce que vous avez, vous, mon bon monsieur? Et moi, je souffre de ci. Et l'autre, qu'est-ce que tu prends comme médicament? Donc, c'est un univers maladif, dans le sens de malade. Bon, maintenant, je ne me moque pas. Je veux juste imaginer la scène encore une fois. Et ça arrive à chaque fois. Et donc, l'environnement, parfois, le milieu dans lequel ça, au lieu de générer en nous de la foi et de l'espoir que les choses pourraient changer, ça nous ramène à notre état, ça nous renforce, nous conditionne à cet état-là. Et c'est ce qui se passe dans cet endroit-là. Mais il y a un troisième personnage qui prend place, et c'est Jésus. Pourquoi Jésus? C'est une bonne question. Jésus s'en va à Jérusalem, s'en va à une fête religieuse. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi Jésus s'arrête là? Pourquoi il s'arrêtait en chemin? Mais le fait de poser cette question, en fait, c'est un peu une erreur parce que c'est la mauvaise question. La véritable question, c'est pourquoi il ne s'y arrêterait pas? Parce qu'en fait, c'est sa mission à Jésus. Jésus n'est pas venu pour fêter, il n'est pas venu pour célébrer dans ce sens-là, il est venu pour accomplir une mission et un ministère. Et cela est très, très bien décrit dans ce que j'appelle son coming out. Vous savez que Jésus a fait un coming out un jour dans Luc chapitre 4, verset 10. Le texte apparaît à l'écran déjà. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, à la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le texte, cette situation prend place dans le temple où Jésus est venu. Jésus demande délibérément, intentionnellement, le livre du prophète Isaïe. Il le déroule au chapitre 61, le verset 1. Il n'y avait pas de chapitre à l'époque, évidemment. Et là, il se met à lire et il lit ce texte-là. Et là, il dit aux gens, aujourd'hui, ce jour est accompli. C'est lui l'accomplissement. Okay? Alors, vous pouvez imaginer l'étonnement des gens qui habituellement viennent au temple, toujours par un certain rituel religieux, les habitudes et tout cela. Et là, Jésus leur annonce que quelque chose va se passer. Et j'ai un petit peu, permettez, réordonné un tout petit peu l'énoncé de mission de Jésus. Il est venu faire quoi sur terre? Il est venu prêcher, c'est-à-dire proclamer une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous êtes déjà attardé à l'expression « bonne nouvelle »? Qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle est une bonne nouvelle? OK? Quelle est la différence entre une nouvelle et une bonne nouvelle? Pour qu'une nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut qu'elle soit précédée de... De quoi? D'une mauvaise nouvelle, d'une mauvaise situation. Vous attendez encore une fois chez le médecin, vous avez subi des tests et tout ça, et vous attendez le diagnostic, vous attendez ou une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend. Mais la bonne nouvelle, en fait, elle est là pour effacer la mauvaise nouvelle. Et quand vous attendez la bonne nouvelle, vous dites, oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je m'attendais au pire et le mieux est arrivé. Alors, ce que Jésus est venu faire sur terre, c'est d'annoncer une bonne nouvelle aux gens parce qu'il connaît la condition réelle de ce que vivent les gens. Donc, il n'est pas venu leur annoncer une simple nouvelle ou de mauvaises nouvelles, mais une bonne nouvelle que les choses pouvaient changer. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ce matin? Donc, il est venu prêcher une bonne nouvelle, il est venu panser les plaies, il est venu apporter la guérison, il est venu proclamer la délivrance et le rétablissement. C'est une annonce. Je vous annonce que maintenant vous êtes libre et vous êtes affranchi, vous êtes rétabli, vous êtes restauré. Il est venu pour promulguer la liberté. Ça, c'est une annonce officielle, comme une loi qui est mentionnée et qui est édictée. Il est venu pour publier une année de grâce, mais en fait, c'est un temps de grâce parce que nous sommes toujours dans cette même époque. Ça veut dire que ce Jésus qui a fait le miracle à l'époque le fait toujours encore lui aussi aujourd'hui. Et évidemment, son approche était centrée sur les besoins des gens. Jésus est interpellé par la souffrance humaine, est interpellé par les besoins des gens quand il voit la scène. Je veux qu'on regarde ensemble un petit peu dans cette histoire une série de séquences qui va prendre place. Okay? Regardez-moi ici un instant. Parfois, on lit ces récits-là de façon très rapide. On lit ça dans notre lecture quotidienne ou régulière de la parole de Dieu. On regarde le texte, « Wow, c'est beau, le gars était paralysé, et là, il est guéri, c'est super. » Mais on oublie, un peu comme un film, il faut arrêter sur l'image et commencer à voir les images séquence par séquence pour s'apercevoir qu'il y a plein de choses qui apparaissent à nos yeux. Ça va? Première séquence, la voici. Jésus prend l'initiative. Vous êtes rendu trop loin dans... Oui, c'est bon, OK, parfait. Jésus prend l'initiative. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit. Maintenant, avant qu'on regarde ce que Jésus va lui dire, on regarde un peu à ce qui prend place. Jésus prend l'initiative. C'est un des rares cas dans le Nouveau Testament où la personne ne fait rien pour attirer le regard de Jésus ou attirer l'attention de Jésus. C'est Jésus qui prend toute l'initiative. Jésus, il est là, il marche à travers les malades, il voit cet homme, il le sait que cet homme est là depuis de nombreuses années, OK? Et c'est lui qui s'arrête là. Il va faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. C'est lui qui va entamer, initier le dialogue avec la personne, OK? Le malade ne fait rien, c'est Jésus qui l'interpelle. Et j'aime ce texte du prophète Isaïe qui dit « Avant qu'il m'invoque, je répondrai ». Avant qu'il ait cessé de parler, un peu comme si Dieu nous coupait la parole, avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Ah, ça, c'est la promesse que nous avons. Parfois, on a l'impression dans la vie que Dieu ne nous entend pas, que le ciel est des reins. On répète les choses, mais il faut garder cette ouverture du cœur. On a parlé d'ouverture ce matin, l'ouverture du cœur devant le Seigneur en disant, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu attends quelque chose de moi aussi dans cette dimension. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. En fait, la réalité de cette situation-là, c'est que le salut ou la solution n'est pas dans la piscine. Les gens attendent après la piscine qu'il se passe quelque chose pour un phénomène qui est encore inexplicable de nos jours, de cette eau qui s'agite. Mais en fait, la solution, elle n'était pas là. La solution, elle est en Jésus. Et Jésus, il est là. Et même le paralytique attend encore une fois la solution à la piscine, mais la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est en Jésus. Mais ça ne se passera pas aussi facilement que cela, parce qu'on a l'impression que cet homme est un peu embourbé dans ses pensées ou dans ses conceptions, peu importe. Donc, Jésus prend premièrement l'initiative. Et en second lieu, Jésus pose une question directe. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri? » Pas, « Veux-tu que je te guérisse? » « Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux, toi? Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu retrouver une vie normale? Veux-tu être rétabli? Être mieux dans ta peau, dans ta condition? » En anglais, l'expression, c'est « make whole », c'est « Veux-tu être rétabli à un état de fonctionnement optimal? » Et gardez bien la pensée. Dans la vie, vous avez deux choix. Accepter les choses telles qu'elles sont ou avoir le courage de les changer. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, la scène qui prend place est intéressante parce que Jésus pose cette question, « Veux-tu être rétabli? » Permettez-moi juste de caricaturer quelques instants un petit peu l'épisode. « Vous êtes guéri? » lui demande Jésus. L'homme étonné répond tout simplement, quelque peu agacé, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux-tu être guéri? Ça fait 38 ans que je suis couché ici. » Il me semble que c'est évident. Et l'homme là, regarde les gens autour d'eux, puis il se met à râler, à les blâmer en disant, « Il n'y a pas personne qui m'aide à aller dans la piscine et tu me demandes si je veux être guéri. Okay? » Personne ne m'aide en tant que tel. J'en ai ras-le-bol d'être couché ici depuis toutes ces années. Ça peut être la réaction intérieure de la personne. Et Jésus lui répond, « Oui, c'est justement la question que je te pose. Je ne me trompe pas dans ma question. Ce n'est pas une erreur. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux? » Alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus pose cette question? Parce qu'il y a une différence entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons pour nous-mêmes. Il y a un énorme écart entre ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu désire pour nous et ce que nous contentons de désirer littéralement. En fait, cette question que Jésus a posée à cet homme plus ou moins paralysé, là, est le même type de question qu'il pose à chacun de nous, qu'il pose à vous ce matin. Bien, je continue à vivre de cette manière encore longtemps. Est-ce que je veux rester empêtré dans ces mauvaises habitudes? Est-ce que je veux tourner en rond constamment dans ma vie? Est-ce que je veux demeurer aux prises avec ces comportements, ces habitudes qui sont néfastes, qui sont nocives, non seulement pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi? Est-ce que je vais continuer à souffrir ainsi? Est-ce que je vais continuer à faire souffrir ainsi mon entourage, les gens autour de moi, ma famille? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide d'aller de l'avant dans ma vie ou est-ce que je décide de retourner en arrière ou de rester sur place? C'est le genre de questions que les gens, que chacun doit se poser. C'est le genre de questions que Dieu nous pose à un moment donné. Que veux-tu faire de ta vie? Qu'est-ce que tu fais face à ta condition? Que veux-tu faire face à ta condition? Maintenant, dans mon travail au fil de toutes ces années de ministère, je me suis interrogé, comme beaucoup de pasteurs, sur qu'est-ce qui fait en sorte que des gens changent dans la vie et que d'autres gens ne changent pas dans la vie. Et ça, encore une fois, sans porter jugement sur les gens qui ne changent pas, sans porter jugement sur des personnes à l'Église, tout pasteur sait que dans l'Église, il y a quelqu'un qui peut être là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, toujours assis à la même place. OK? Et le pasteur qui sue sang et eau pour donner des messages de prédication avec l'onction, avec la prière et tout ça, et le gars ne bouge pas, ça ne change pas. Et je vais vous donner une expression québécoise. Vous voulez? Je vais vous montrer un peu de québécois. Une expression québécoise qui dit « Plus ça change, plus c'est pareil. » C'est bizarre comme expression, hein? Alors que si j'appelle un ami, je dis « Alors, ça va toi? Quoi de neuf? » Il va me répondre « Ah, plus ça change, plus c'est pareil. » Autrement dit, rien ne bouge, rien ne change, c'est toujours du pareil au même. Alors, il y a des gens qui vivent cette dimension-là. Et quand je m'interroge, au fil des années, j'ai essayé de trouver des réponses à cela. Je vais vous en proposer quelques-unes. Les gens ne changent pas premièrement parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Ce qui les anime, c'est davantage de l'ignorance. « Je suis comme ça. Mon père était comme cela. » Mon grand-père était comme ça, c'est ma culture, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de me comporter. Je suis comme ça et je vais rester comme ça. Évidemment, ce qui les anime, c'est l'ignorance. D'autres gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Vous observez ça chez certains de vos amis ou dans certaines familles. Puis on regarde le gars ou on regarde la dame, on se dit, mais est-ce qu'il se voit réagir de cette façon-là, péter un câble et tout ça? Mais la personne, elle dit, non, moi j'exprime mes émotions, je suis libre de dire, bon, oui, mais vous terrorisez tous les gens autour de vous, non? Mais ça ne vous dérange pas? Non, lui, il ne ressent pas le besoin. Tous les gens autour ressentent le besoin, mais pourquoi il ne change pas? Pourquoi il ne cesse pas? Pourquoi il n'arrête pas de faire ces choses-là? Mais la personne ne le ressent pas. Parce qu'elle ne le ressent pas, évidemment, elle ne bouge pas. Troisièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Là, je sais que ça fait un peu, c'est un raccourci un peu direct, en disant ils veulent vraiment pas. Évidemment, il n'y a personne ne se dit dans la vie, il n'est pas question que je change, je refuse de changer, je ne veux pas changer. Les gens ne pensent pas comme ça. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils veulent, c'est-à-dire qu'il y a le désir intérieur de changer, mais dès qu'ils rencontrent une certaine résistance, ils abandonnent. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. Est-ce qu'ils veulent vraiment? Oui, ils ont une intention derrière. Mais ils ne posent pas des gestes concrets, ils ne prennent pas des initiatives sérieuses et affirmées pour que les choses changent. Les gens ne changent pas aussi parce qu'ils ont peur de changer. Ça, c'est intéressant. Vous savez, il y a parfois une certaine sécurité dans le statu quo. Ce que j'appelle le désespoir confortable ou le confort désespérant. Prenez la version que vous aimez le mieux. Parce que le changement est perçu comme quelque chose de menaçant. Les gens ont peur que leur situation se complique encore davantage et qu'elle s'aggrave encore davantage. Ils pensent au changement et quand vient le temps de poser un geste, ils ont peur. Et cela est de façon fascinante illustré dans le livre d'Exode. Vous connaissez l'histoire de l'Exode, vous savez que Moïse a dû quitter l'Égypte précipitamment parce que Pharaon cherchait à le faire mourir et s'est retrouvé au buisson ardent quelques années plus tard. Et là, il y a eu Dieu qui lui est apparu, ce Dieu qu'il ne connaissait pas. Et Dieu se révèle à lui. Parce que pourquoi Moïse ne le connaissait pas? Parce que Moïse avait passé 40 ans dans la maison de Pharaon, dans toute la culture égyptienne de l'époque, et la religion égyptienne de l'époque. Et là, Dieu se révèle à lui, puis Dieu lui donne son ordre de mission. Tu vas retourner en Égypte et tu vas aller libérer mon peuple. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi ce matin? OK. Et là, Moïse arrive en Égypte, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il convoque les anciens du peuple hébreu. OK? Il les convoque dans une salle, un peu comme ici aujourd'hui, et là, il raconte aux anciens du peuple ce que Dieu lui avait dit, que maintenant Dieu avait entendu leur cri, Dieu avait entendu leur prière, Dieu va les libérer de cela. Et le texte mentionne, regardez-moi, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Vous imaginez? L'angoisse et la dure servitude les empêchaient. Non! C'est comme si ce matin, au lieu d'écouter la parole, vous bouchez les oreilles. On ne veut rien entendre ce matin. Qu'est-ce que Moïse leur propose? Il leur propose une voie de sortie. Ça fait 400 ans qu'ils sont là à faire des briques jour après jour, 10 générations selon notre façon moderne de voir les choses. Il me semble que la proposition que Moïse fait ne peut être que le mieux que de rester 400 ans dans la même condition encore pour les 400 prochaines années. Mais le texte mentionne que l'angoisse les empêchait. Qu'est-ce que l'angoisse vient faire dans cela? Regardez bien ce que je vais vous dire. D'ailleurs, je vais vous poser la question ce matin. Regardez-moi, religieusement, mais pas trop religieusement. Écoutez-moi. Entre le connu douloureux et l'inconnu générateur de peur et d'angoisse, est-ce que quelqu'un peut me dire pour 200 euros ce que les gens vont choisir? Ça va me coûter cher ce matin, hein, là? Oh là! Vous avez raison, les gens vont choisir le connu douloureux. C'est triste, mais ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, quand vient le temps de bouger, on est tellement angoissé, tellement peur qu'on décide de rester sur place. Il y a des gens qui vont passer des décennies dans le même état sans que les choses puissent changer. Mais le texte mentionne aussi que non seulement l'angoisse les empêchait d'écouter Moïse, mais aussi la servitude. Que signifie la servitude dans le contexte? Lorsque ça fait 400 ans que tu es esclave, que la seule chose que tu as connue, c'est l'esclavage, que tu es né d'un père esclave, qui était né d'un grand-père esclave, qui était né d'un grand arrière-grand-père esclave, la seule chose que tu connais, c'est l'esclavage, et après 400 ans, c'est vous ce que ça fait? Ça devient ton état et ton identité. Je suis un esclave. Je pense comme un esclave. Je marche comme un esclave. Je réfléchis comme un esclave. Je me comporte comme un esclave. Je réagis comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis devenu au fil de toutes ces années. Et pour beaucoup de gens, la seule pensée de devenir quelqu'un d'autre, c'est presque inimaginable. Je suis ce que je suis et je ne vois pas le jour où les choses pourraient changer. Je suis né comme ça. Et la réponse est non. Et c'est là que le christianisme est fort. C'est là que le Seigneur est puissant, parce qu'il va nous donner une nouvelle identité, un nouvel affranchissement face à ce que nous croyons, ou au moment où nous nous croyons emprisonnés littéralement par nous-mêmes, par ce que nous sommes. J'aurais même tendre un petit amen ce matin, mais ce n'est pas très grave. Je vais continuer quand même. Non, mais là, ça ne compte pas, là. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Cinquièmement. La réflexion précède le changement. On peut passer notre vie à imaginer, à rêver, à ce que serait ma vie si les choses changeaient, mais les gens ne bougent pas. OK? La réflexion précède le changement, mais ne change rien. Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir, à imaginer, à rêver, sans que ça ne change strictement rien. J'ai raconté hier dans la formation l'épisode du fils prodigue, qui a dilapidé l'héritage de son père, en faisant les 400 coups, les prostituées, la vida, la belle vie, tout ça. Il se retrouve dans cette période où il y a eu cette disette, cette famine. Et là, il se retrouve assis avec les pourceaux. OK? Et là, il se met à réfléchir. C'est souvent le cas lorsqu'on se retrouve avec les pourceaux de notre vie ou des conditions douloureuses de notre vie. On se met à réfléchir. Et il se dit dans sa tête, il commence à comparer sa situation avec celle qu'il vivait à l'époque chez son père. Combien d'ouvriers chez mon père sont mieux traités que moi? Okay? Donc, la réflexion, elle est saine, elle est bonne. Et là, il commence à se parler à l'intérieur de lui-même. Il commence à se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Où je suis rendu? Mais qu'est-ce qui se passe avec ma vie? OK, j'ai une idée. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je dirai, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que c'est bien? Sa façon de penser, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est saine? C'est génial. La seule chose, c'est que il est toujours avec les pourceaux, là. C'est-à-dire que dans sa tête, son raisonnement, il est bien. Son intention, elle est bonne, elle est saine, mais il est toujours avec les pourceaux. Sa situation va commencer à changer à quel moment? Le texte nous dit dans le verset suivant, « Et il se leva, et il alla vers son père. » Et là, tout se manifeste, tout se réalise littéralement. On sait, nous, parce qu'on connaît l'histoire, que son père l'attendait au champ. S'il n'avait pas bougé, les choses n'auraient jamais changé. Il serait encore assis avec les pourceaux aujourd'hui. Dernièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. Avec notre meilleure volonté, on est confronté à des forces intérieures parfois qui nous empêchent de changer. Et l'apôtre Paul a pris conscience de ça lorsqu'il a dit, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire ce que je veux, mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, parce que je sens en moi une loi qui lutte contre mon entendement, contre mon raisonnement, que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je veux cesser de faire, je ne cesse pas. » Et là, il va s'écrier, « Qui me délivrera de ce corps de mort, ou de cette condition, ou de cette situation? » Et la réponse, « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. » Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Regardez-moi. Quels sont ceux qui croient ici que Jésus peut changer une vie? Maintenant, je suis dans une église. Hein? Je m'attendais bien à ce que vous leviez la main. Hein? Okay, je ne suis pas surpris. Ah, je suis étonné. Des gens ici, à l'El Shaddai, ils croient que Jésus peut changer une vie. Là, pasteur, ne me poussez pas vers la porte face à ce que je vais dire. Je ne crois pas que Jésus change des vies. Oups! Et le fou. Je crois que Jésus change des personnes. Et quand les personnes se mettent à changer, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez tout compris. Il a dit, oh, c'est la même chose, pasteur. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. parce qu'on voudrait que Dieu fasse les choses en dehors de notre capacité, tout ça, en dehors de nous-mêmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez prier, au lieu de dire « Seigneur, change ma vie », vous allez dire quoi? « Seigneur, change-moi. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse et que je puisse avoir en retour ce que tu as pour moi. » C'est beaucoup plus logique comme cela. Donc, Jésus s'intéresse à ma personne. Je suis l'acteur principal de ma vie. OK? Et si ma vie doit changer, elle va changer à partir de la transformation dont je vais être l'objet de la part du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un petit amen?
Amen!
Okay. On revient à notre histoire. Sa réponse à la question. Le malade lui répondit, Jésus pose la question, « Que veux-tu être rétabli? » Et le malade répond ceci, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend vers moi. » Quelle est la question que Jésus lui a posée? Maintenant, à la question « Veux-tu être guéri? » Il me semble, moi, que la réponse, elle est simple. C'est oui ou non. Mais lui, là, il répond à côté de la plaque. Complètement. Mais il est où, ce gars-là? Au lieu de répondre « Oui, je veux être guéri », de saisir l'occasion, il se trouve une défaite, une explication, une justification pourquoi il n'est pas guéri. Mais la solution, c'est pas, il est encore dans la piscine. Il est encore préoccupé par la piscine. Peut-être qu'il va s'imaginer que Jésus va agiter l'eau de la piscine. Je ne sais pas où il est dans sa tête, le gars, mais le Fils de Dieu est là devant lui. Il demande « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu être guéri? » Et le gars, il n'y a pas personne de me jeter dans la piscine. Je n'ai personne. Un autre descend avant moi. Ce n'est pas juste la vie. Dieu répond aux prières des autres et ne répond jamais aux miennes. Pourquoi ça marche pour elle, ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça marche pour lui, ça ne marche pas pour moi? Au lieu d'être focalisé sur la question et la réponse à la question, précisément dit, on se trouve des défaites et des justifications pour ne pas comprendre. Puis vous savez ce qui arrive à la longue? C'est que s'installe à l'intérieur de nous un discours disqualifiant. On s'auto-disqualifie. On s'auto... comment dirais-je? En fait, le problème, ce n'est pas tant les obstacles à l'extérieur qui se manifestent que davantage les obstacles à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes le premier obstacle à l'action et à l'activité de Dieu dans notre vie. Je vais vous partager deux mots qui vont apparaître sur les prochaines diapos. Le premier mot, c'est stigmatisation. Ça apparaît un peu technique, vous allez comprendre. Ce qu'on appelle la stigmatisation, ça fait référence au processus par lequel une personne est jugée, discriminée ou exclue en raison de son état, de sa condition. Et là, je reviens un peu à l'histoire. Cet homme-là vit dans un univers de gens qui sont malades, des estropiés, des aveugles, des manchots, on peut imaginer n'importe quoi. À vivre dans cet état-là, et le fait aussi qu'il est dépendant complètement de sa famille, il vit au crochet de sa famille. Il n'y a pas le choix, ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Il ne se passe rien dans sa vie à chaque jour depuis comme 38 ans. Vous avez bien compris? Il fait toujours la même chose. Donc, sa vie, c'est l'incarnation de la stagnation. Il n'y a rien qui bouge. C'est toujours la même chose. Rien d'exaltant qui se passe dans sa vie. Et là, tout d'un coup, c'est son lot de tous les jours. C'est toujours la même chose qui se passe. Il se trouve à la piscine à attendre le mouvement de l'eau. Alors, les gens le traitent comme ça à chaque jour, c'est sa famille l'amène là. Okay? Il le traite comme un malade parce qu'il est malade et lui-même se traite « Je suis malade ». Et quand quelqu'un est malade, on le traite comme un malade. C'est ça la stigmatisation. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant dans cette histoire. C'est le deuxième thème que je vais voir avec vous ce matin, c'est habituation. Et là, réfléchissez un peu, pensez à votre condition. L'habituation fait référence au processus par lequel une personne s'habitue progressivement à son état au point de ne plus ressentir le besoin de changer. Bah, c'est comme ça. Je suis comme ça. Je vois pas le jour où ça pourrait changer. Je me suis habitué. Ouh, l'épouse dit, ah, c'est mon mari. Ah, mon mari. J'ai prié, j'ai tellement prié, mais ça change pas. Je me suis habitué à vivre avec lui. Puis certains, les plus spirituels, vont dire, mais je porte ma croix maintenant, comme si le mari était une croix. S'habituer à ce que les choses ne changent pas. Il y a des millions de gens qui sont comme ça. Ils acceptent leur état. C'est comme une résignation. J'ai essayé, je me suis débattu un tout petit peu. Il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant, comprenez bien ma pensée. Je sais que ce n'est pas évident de changer, de transformer. Voilà pourquoi on a besoin du Seigneur dans tout ça. Vous savez, je vais vous confesser quelque chose aujourd'hui. Je souffre d'un syndrome très grave. Je souffre du syndrome du sauveur. Moi, je veux sauver la planète. Pas dans le sens spirituel, je sais bien que Jésus est le sauveur. Moi, j'ai passé ma vie avec des gens dans des situations difficiles de la vie. Par exemple, au niveau des mariages, moi, je veux sauver les mariages. Le problème, c'est que les mariés ne veulent pas toujours que leur mariage soit sauvé. Vous avez tout compris. Et un jour, j'ai une image, je suis en entretien avec un couple, et je ressors de l'entretien, j'ai mal dans les épaules. Bien, pourtant, j'étais assis à mon bureau tranquillement en train de discuter avec eux. Comment ça se fait que j'ai mal à ce point-là? Je n'ai pas fait de pompe, je n'ai rien fait. Et là, il y a une image qui me vient à l'esprit et je vous la donne. Je m'en allais sur le chemin de la vie en voiture lorsque je vois une voiture qui est stationnée sur le bas-côté de la route et elle est en panne. Et là, il y a un couple à l'intérieur. Et là, moi, bon samaritain, je descends de ma voiture puis je dis, vous voulez que je vous donne un coup de pouce, il y a quelque chose? Cet homme me dit, mais écoutez, je pense que si vous nous poussez, je pense que ça va aider à redémarrer la voiture. Fait que moi, bon samaritain, encore une fois, je m'attelle derrière la voiture, je me mets à pousser. Puis après, je me lève la tête, je m'aperçois que lui est assis dans la voiture, elle est assise dans la voiture, et je lève la tête, et lui, il a le pied sur le frein en plus. Et moi, je pousse. Vous voyez l'image? La réalité, c'est que le changement doit prendre place. Mais il prend place en nous. Et regardez bien un peu la prochaine pensée qui apparaît entre, je ne sais pas si c'est là, entre la proposition et la réaction, il y a un petit espace. Dans cet espace se trouve notre capacité de choisir comment on va réagir. Et dans celle-ci se trouve notre progression, notre liberté. Donc, Dieu nous propose des choses, mais l'espace d'un instant, il y a quelque chose qui vient de m'arriver à l'esprit. C'est difficile pour moi de prêcher là-dessus, comme je l'ai mentionné à quelques reprises durant ce week-end, sans penser à ma propre conversion. Je vous ferai part de la transaction que j'ai eue, la discussion que j'ai eue avec celui qui m'a témoigné. Okay? Ma vie était mal en point, je n'irai pas dans les détails, je l'ai raconté hier à ceux qui étaient là. Et le gars me dit, tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur? C'est un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et moi, j'hésite. J'hésite parce que, il dit, puis là, il me répond, mais est-ce que tu as quelque chose à perdre? Et moi, je réponds, j'ai rien à perdre. Mais mon problème, c'est que ce rien-là, j'y tenais. Non, mais c'est fou, hein? Je n'avais rien, mais je tenais à mon rien. Parce que c'est comme... Mais pourquoi tu ne veux pas... Ben parce que je veux perdre quelque chose. Qu'est-ce que tu vas perdre? Ben rien. Mais pourquoi tu veux... T'as peur de perdre de rien, puis tu hésites à avoir plus. Est-ce que vous imaginez le raisonnement d'un jeune homme là, qui... OK? Ben effectivement, à un moment donné, j'ai plié, puis j'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. Ah, c'est ça le sens de réaction face à la situation. Dieu nous demande des choses, mais ils attendent une réponse de nous. Voilà pourquoi, dès le début, j'ai parlé de notre participation. Le problème chez beaucoup de croyants, c'est qu'ils attendent après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Lève-toi, va dans cette direction. Josué attendait, après la mort de Moïse, partant de deuil, Dieu dit, lève-toi, va dans la direction. Au docteur de la loi qu'on a prêché hier, OK? Fais cela et tu vivras. Fais cela, va et toi, fais demain. Oui, le verbe faire est répétitif. Mais on a parfois une théologie qui est un peu mal ficelée parce qu'on attend, on attend, on attend, on attend. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et plus ça change, plus c'est pareil. Et voilà. Dernière séquence. Jésus donne un ordre. Lorsque Jésus lui coupe presque la parole, quand lui est en train de se justifier sur « Ouais, j'ai pas personne qui peut m'amener à la piscine et tout ça », Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est comme si Jésus disait, OK, c'est bon. Lève-toi, enlève-toi et dégage. Ou, allez, pousse, lève-toi. Je ne veux pas être trop direct dans mes propos. Prends ton lit et marche. Et là, c'est intéressant parce que là, il n'y a plus aucune hésitation. Mais ce que Jésus fait, c'est presque une ordonnance. C'est presque un ordre. C'est presque un commandement. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Okay? Et là, le gars dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Morale de l'histoire, il y a un prix à payer pour le changement. Cela se résume par l'obéissance, par le passage à l'action sur la parole que le Seigneur nous donne. Vous savez, ce genre de récit du paralytique doit devenir une source d'inspiration quant aux obstacles de notre vie, face à ce à quoi nous devons faire face. On est tous aux prises avec des situations auxquelles on doit faire face. On a le choix d'abdiquer, On a le choix de ne pas écouter. On a le choix de fuir. On a le choix d'éviter. On a le choix de... On a le choix de dire, oui, Seigneur, sur ta parole, je vais me lever, puis je vais aller où tu veux que j'aille. Je vais aller dans ce que tu sois pour chacun de moi. Lorsque nous abandonnons notre volonté à Dieu, nous découvrons que ses plans pour nous dépassent de loin tout ce que nous aurons pu imaginer pour nous-mêmes. En ce moment, vous faites affaire, pour beaucoup d'entre vous, avec ce que vous savez de vous, ce que vous savez de votre vie. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire de vous et ce qu'il veut faire de votre vie. Et ce que Dieu veut faire de votre vie dépend de ce que votre propre conception personnelle. Croyez-vous sincèrement que lorsque j'avais 20 ans et que je discute avec mon ami, que je suis capable de me projeter 49 ans plus tard, là, vous savez mon âge, là, je voulais le cacher, en m'imaginant qu'un jour je serais au Luxembourg en train de prêcher à l'église d'El Shaddai? Absolument pas. C'est inimaginable. Mais Dieu savait toutes choses. Mais ce qu'il attendait, c'était une réaction de ma part. Laisse-moi agir dans ta vie et tu vas voir jusqu'où je peux te mener. Et c'est ça, c'est pas simplement mon histoire, mais c'est votre histoire aussi à chacun de vous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Levons-nous ensemble. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Penchons la tête quelques instants. En préparant ce message, je suis tombé sur ce texte du prophète Isaïe aussi qui dit « J'ai vu ses voies, je le guérirai. » Et je ne pouvais pas voir ce texte sans imaginer que c'est justement ce qui est en train de prendre place dans cette piscine de Bethesda. Jésus se promenait au travers des malades et là, il a vu ce gars. « J'ai vu ses voies, je le guérirai. » J'ai décidé, je l'ai vu. Et je vais le guérir. Mais après coup, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je lui servirai de guide pour le reste de la route et je le consolerai. Et lui et ceux qui pleurent avec lui, sa famille, tous ceux qui étaient autour, qui n'imaginaient pas des choses possibles, je mettrai la louange sur les lèvres. Pas seulement sur ses lèvres à lui, mais sur les lèvres de tout son entourage. Ça, c'est ce que Dieu nous propose à chacun de nous face aux difficultés de notre vie, face aux problèmes auxquels on a fait face. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te prier ce matin, par la présence de ton esprit en ce lieu, par la présence de ton esprit dans le cœur et dans la vie de chaque personne qui est ici. Seigneur, tu vis au-dedans de nous. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu parles à leur cœur. Certains ont des décisions à prendre. Certains, pendant longtemps, se sont bouchés littéralement les oreilles. Ils entendent la voix, mais ils ne veulent pas écouter. Et surtout, ils ne veulent pas obéir. Seigneur, tu connais leur situation, ce que je ne connais pas. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu vois ceux qui, semaine après semaine, Seigneur, ne voient pas de changement dans leur vie. Ils tournent en rond dans des mauvaises habitudes. Seigneur, tu vois tout ça. Mais ce matin, Seigneur, tu les interpelles. Ce matin, tu leur parles. Ce matin, tu leur poses la question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu, au juste? Veux-tu être guéri? Veux-tu être rétabli? Veux-tu que les choses changent? Veux-tu être transformé? Veux-tu être rétabli? Veux-tu une autre vie que ce que tu es en train de vivre? Mais pour cela, laisse-moi te toucher, laisse-moi te parler, laisse-moi te guider, laisse-moi te rétablir en toutes choses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parle à leur cœur en ce moment. Certains vont devoir prendre des décisions à partir d'aujourd'hui. Face à la vie, rien, pas nécessairement quelque chose de majeur, mais face à cette résistance intérieure qui les empêche d'avancer, qui les amène à rester inconfortablement assis dans leur vie, Seigneur. Mais Dieu Tout-Puissant, tu leur parles ce matin. Cette histoire du pratique, Seigneur, c'est un rappel à chacun de nous, Seigneur, de t'obéir et de marcher dans ce que tu veux que nous, vers où tu veux que nous allions d'avant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que tu fasses cette œuvre en ce moment. Convainc par ton esprit. Convainc par ton esprit. Des choses, Seigneur, que toi seul peux faire. Voilà pourquoi, tous ensemble, on se place en totale soumission devant toi en disant, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse, que je puisse avoir en retour ce que tu as pour moi. D'ailleurs, voulez-vous le répéter avec moi? Seigneur, je veux être ce que toi tu veux que je sois. Parce que je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Et que je veux avoir en retour ce que tu as pour moi. Ta bénédiction et tous les bénéfices d'une transformation. Et tous ensemble, nous disons amen, amen et amen.
Vous avez bien fait de nous suivre et d'écouter cette parole. Retrouvez un nouveau podcast d'El Shaddai Luxembourg la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.